Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le Geek Squadron consacré à Thor Love and Thunder avec Sylvain. Bonsoir Sylvain.
Bonjour.
Normalement on devait avoir JC, mais il a eu la flemme de revoir le film, pour vous dire à quel point il l'aime pas. Et ça partait en fait du fait qu'on avait discuté tous les trois et qu'on n'était pas d'accord sur la qualité du film, on va dire.
Non, en fait, JC et moi étions d'accord sur l'absence de qualité du film, alors que toi, tu trouves qu'il a des qualités, ce qui veut dire que t'as très mauvais goût.
Et ce qui n'est pas très commun, je l'avoue, ce film est assez détesté, mais je voulais avoir un peu un droit de réponse pour défendre ce film mal aimé. Que même les plus fervents défenseurs de Marvel n'aiment pas. Alors que moi, je pense que c'est un de mes préférés, en fait, même du MCU, pour tout te dire.
Allez, bonne soirée, j'y vais, moi.
Moi, le premier thème que je voulais défendre, c'est le méchant. Le méchant, c'est Gore. Il est interprété par Christian Bale. Bon, c'est quand même un bon acteur. Je marque un point, là.
Oui, mais en fait, tous les acteurs de ce film sont normalement des bons acteurs.
Oui, je suis d'accord. Il y a plein de points là. Et le personnage, je trouve qu'il est plutôt intéressant. D'abord, il a une bonne raison d'être méchant. Il est plutôt bien développé. Il a un univers visuel plutôt intéressant. Que ce soit quand il est dans la ville, la Nouvelle Asgard, avec ses espèces de croque-mitaines. Ou que ce soit dans sa planète, là, à la fin, où il y a une absence totale de couleurs, on se retrouve dans un monochrome. Je trouve qu'il y a un vrai univers visuel, un parti pris. Et moi, j'ai plutôt adhéré.
Alors, il porte très mal son nom. Il s'appelle Gore, et c'est un film pour enfants. Alors oui, il a une certaine gueule. Mais à part, et oui, Christian Bale est un très bon acteur. Mais à partir du moment où Christian Bale dit qu'il a accepté de ce rôle pour faire plaisir à ses gamins, et on y reviendra sur cet argument parce qu'ils sont assez nombreux à l'avoir sorti, dont le réalisateur. Mais vous inquiétez pas, c'est lui qui va prendre le plus.
Ah ben c'est toujours la faute du réalisateur.
Effectivement, il a une sacrée gueule, Gore. Il a un background, il a des raisons d'être en colère, mais c'est pourri. À aucun moment, il me fait peur. À aucun moment, je suis effrayé pour les enfants. À aucun moment, je ressens quoi que ce soit à part un ennui profond. Il ne fait que cabotiner, en fait, en permanence.
Non, mais je suis pas d'accord avec toi. Je trouve qu'il cabotine pas trop.
Toutes les séquences avec les gamins.
C'est vrai qu'il est pas il est pas très effrayant. C'est plus du « Waouh, je suis un méchant ».
Voilà, c'est un méchant qui dit « Je suis un méchant et je veux faire du mal parce que je suis un méchant et que je suis en colère parce que je suis un méchant ». Et puis son arc de sa rédemption finale, c'est de la merde.
Ah mais non, c'est très bien. Mais non, arrête.
Non, c'est naze.
Je suis pas d'accord avec toi. Moi, je trouve que c'est très très bien. Au contraire, enfin... Voilà, la raison profonde, c'est sa fille. Donc, la raison profonde de sa rédemption, c'est sa fille. Moi, je trouve qu'au contraire, il y a une grande cohérence dans ce personnage. Par contre, ce que je suis d'accord avec toi, c'est que du coup, on n'a pas de vrai méchant. On reviendra sur les autres personnages qu'on peut dire un peu méchants, comme, Zeus et tout. Mais en effet, du fait que le méchant, il ait droit à sa rédemption, du coup, on n'a pas de mal absolu. En fait, le méchant est gentil. On le comprend tellement bien qu'on finit par se dire qu'il a raison, en fait.
C'est ça le problème, en fait. C'est le tueur, c'est Gore, soi-disant le tueur de Dieu, mais il ne tue que des abrutis, parce que oui, effectivement, tous les dieux qui croient, c'est des crétins finis. Et même quand Thor va voir les autres dieux, c'est des abrutis finis. Donc d'un côté, on est censé avoir peur de Gore, c'est un phénomène quand même assez récurrent à Hollywood, finalement, on est d'accord avec le méchant de l'histoire. on trouve que le méchant, il a raison d'exterminer tous ces trous de balles qui prétendent être des dieux, alors que c'est juste des couillons en série. Donc à un moment, il va falloir peut-être se poser la question de comment qu'on fait des méchants pour que le public n'adhère pas à ces idées, quoi. C'est ça qui pose problème.
Mais moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir des méchants qui ont des vrais arguments. Et après, en fait, le fait que c'est un méchant, c'est pas tellement le fait qu'il s'en prenne à des dieux, c'est qu'il s'en prenne à des dieux sans réfléchir à quel dieu il s'en prend, et donc il s'en prend y compris aux enfants d'Asgard. Et c'est là que ça en fait un méchant, c'est qu'il y a un moment, il est dans un aveuglement, et donc il fait plus la part des choses.
Le problème, c'est que on peut dire la même chose du Joker de Todd Phillips. On peut dire la même chose de d'autres méchants qu'on a vus dans des films de pop culture. Et
bah, même Thanos.
Même Thanos. Le problème, c'est que pour moi, un méchant qui est adoubé par le public, qui est suivi par le public et qui retourne les arguments dans la vie réelle, c'est pas un bon méchant. On n'est pas, même si on n'est pas censé bouffer ses voisins parce qu'on apprécie Hannibal Lecter. Il y a quand même une distance à avoir. Là, on a.
Non, je suis pas d'accord. Je pense que
on adhère pas.
Mais non, on adhère pas au fait qu'il faut tuer les enfants Asgardiens. On adhère au fait que dans les dieux, il y en a des mauvais, et donc il faut peut-être faire une guerre contre les mauvais. Et garder les bons, et faire la part des choses.
Le problème, c'est que ce discours-là, si tu le décalques dans la vie réelle, ça fait les États-Unis qui vont taper sur Saddam Hussein ou sur les talibans. Et fatalement, ça part en sucette. Ça finit par se retourner, parce que bon, les petits Asgardiens, oui, c'est des enfants, mais s'ils sont élevés par leurs parents comme des trous de balles, parce que la New Asgard, c'est Disneyland. Hein.
J'ai du mal à te suivre là.
Tu dis qu'en gros que Gore il a raison, en tout cas il a les bons arguments, et que bon, il faut taper sur les méchants dieux et puis il faut garder les gentils dieux. Qui te dit que les gentils, que les enfants asgardiens, c'est des gentils? Ils sont élevés dans une espèce de parodie de Disneyland de mes fesses. Les Asgardiens, dans les rares scènes qu'on voit avec la reine Valkyrie, c'est des abrutis finis aussi. S'il n'y a pas de Thor dans le coin, c'est des poulets sans tête.
De toute façon, c'est des enfants, quoi, j'ai envie de te dire.
Et
même si c'était des enfants, je sais pas, élevés par Zeus ou quoi, ça resterait des enfants. Enfin, y a un moment, tu peux pas condamner de la même façon des enfants et des adultes. On est d'accord, quand même. Et il faut que tu le dises à l'oral pour les gens qui écoutent le podcast, parce que sinon, ils vont se dire que t'es un peu vrillé, Sylvain.
Bah, je suis vrillé.
On va pas être d'accord là-dessus.
rassure-toi, on sera d'accord sur aucun point de tout ce podcast.
Très bien. On continue sur les méchants, du coup, on parle des autres dieux, là, qui sont peut-être les véritables méchants, du coup.
Je suis pas sûr que ce soit des vrais méchants, des vrais abrutis finis, égocentriques, oui, tout à fait. Mais même là... Russell Crowe en Zeus, il cabotine.
Oui, je suis d'accord.
Il ne fait que ça. Il n'y a aucun intérêt. Même les autres dieux, c'est de la figuration idiote. Et ils sont poutrés en deux-deux par Thor qui a poil en plus.
Non, mais il y a quand même nanananananer. T'adhères pas à la blague nanananananer?
Ah non, pas du tout. C'est... Mais en fait, il n'y a rien qui me fait rire dans ce film. C'est vraiment, pour être honnête avec toi, ce film, il m'a mis en colère. C'est le premier Marvel, et pourtant tu sais que j'adore ça.
Ouais.
Mais là, il m'a vraiment énervé. Et j'en veux beaucoup à Tahiti Bob d'avoir fait ce. Ah non, pas hors de question que je l'appelle par son vrai nom et son vrai prénom. C'est, pour moi, ce sera Tahiti Bob parce qu'il est vraiment. Pour moi, il est vraiment le Tahiti Bob du MCU, lui.
Non, je précise que c'est Taika Waititi.
Ouais, c'est ça, Tahiti Douche. C'est toute la séquence avec les dieux. Elle est moche. On y reviendra.
Oui. Alors, c'est vrai qu'elle est très laide.
Elle est extrêmement laide à l'image du film. Elle ne sert globalement à rien. Et Russell Crowe est totalement pathétique là-dedans. C'est la première fois qu'on voit d'autres dieux, finalement.
Oui.
Et on se dit que Thor ferait bien d'aller là-bas et de tous les tuer, ils servent à rien. Non, moi, c'est Russell Crowe avec sa jupette, hein, c'est du n'importe quoi. Putain, elle est loin, l'époque de Maximus.
Mais je pense que c'est fait exprès, justement. Enfin, t'as tellement l'image de Russell Crowe, Maximus, que ça casse un peu cette image-là. Il l'est pris à contre-pied complètement, Russell Crowe. Et je trouve que c'est plutôt couillu, en fait, d'avoir dit « on va prendre ce... » Justement, l'acteur qui représente peut-être le mieux le monde gréco-romain, on va en faire le plus grand dieu gréco-romain, mais ce sera vraiment je sais pas à quel mot je peux dire, mais des insultes. Et voilà, et du coup, on prend le grand héros et on le retourne envers un grand méchant, quoi.
Le problème, c'est que j'ai l'impression que, de toute façon, en fait, ce film ne prend rien au sérieux, et c'est aussi ça qui me dérange. Et tu vois, c'est ça, on prend pas Zeus au sérieux, on prend pas les autres dieux au sérieux, on prend pas Thor au sérieux, on prend pas Mighty Thor au sérieux, on prend même pas Stormbreaker et Mjolnir au sérieux, on prend pas les Asgardiens au sérieux. Au final, il y a rien de sérieux dans ce film, et non... quitte à faire un film entièrement comique, c'est pas la peine d'aller chercher Russell Crowe en Zeus. Tu vas nous chercher John Cena, qui au moins ressemble à un dieu grec et qui a énormément d'humour et d'auto-parodie et qui aurait joué un Zeus encore plus neuneux, encore plus imbu de sa personne. Parce que là, Russell Crowe, à part un petit gros boudinet, il ressemble à rien, quoi.
Je sais pas. Moi, j'attends. Alors, sur les autres dieux, j'ai considéré que c'était aussi beaucoup une introduction pour la suite. D'abord, pour continuer un peu sur le background de Gore, mais aussi, je pense, pour introduire des futurs méchants plus tard dans le MCU. Et oui, du coup, en effet, je trouve que c'est peut-être pas la séquence la plus réussie. Après, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que le film, il traite très très bien certains sujets. Je pense qu'on va y revenir. Voilà. Donc non, en effet, je suis pas spécialement convaincue par cette séquence. Je vois pas trop l'intérêt d'en avoir mis des tonnes, en fait. Je pense qu'en effet, comme tu dis, c'est du cabotinage, c'est pas... Ça aurait été un brin plus sérieux, je pense que ça aurait été plus intéressant comme séquence.
C'est à l'image du film. Ça aurait été plus sérieux, ça aurait été mieux.
Je pense en effet que le positionnement du film est pas le bon en fait sur l'humour. Je pense que il y a des séquences d'humour qui sont bonnes, hein, mais il y en a aussi qui sont très 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 lourdes.
Très lourdes, répétitives, à l'image des chèvres. Et tu vois, le gag des chèvres, elles sont doublées par Tahiti Bob. Pour moi, ça résume bien le film.
Oui, bah, il tenait aux chèvres. Hein.
Ouais, mais pourquoi ? Elles servent à rien. C'est ça qui...
Non, c'est, en effet, ça sert... Enfin, si, parce qu'il y a un moment, elles viennent et donc elles les sauvent. Mais en effet, t'aurais remplacé par autre chose, un autre artifice de scénario. C'était tout aussi bien. Moi, j'adhère pas non plus spécialement au chef. Je pense que ça a pas grand intérêt. et je pense que c'est un peu lourd. Voilà, je pense que moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est un film qui traite de sujets aussi assez sérieux et avec, avec beaucoup de dignité. Donc, il y a la parentalité, hein, donc on a un peu parlé avec Gore, mais il y a aussi voilà, toute la séquence de la fin avec, bah, avec Thor et la fille de Gore. Qui non, sonne non, très très juste, fait... mais si elle sonne très très
non,
juste.
Non, c'est fait par-dessus la jambe.
Mais non,
c'est fait par-dessus la jambe. En demi, il la voit une demi-seconde et puis, hey, allez, maintenant je vais t'élever comme ma fille. D'où Thor, au début du film, il est littéralement en dépression nerveuse, le pauvre bonhomme.
Mais il a une révélation de la parentalité, Sylvain.
Non.
Et la séquence, on la voit, c'est des mois plus tard. Il a eu le temps de s'habituer au fait d'être papa. Voilà, c'est tout.
C'est fait par-dessus la jambe, non.
Non, je suis pas d'accord.
C'est
trop mignon. Moi, ça me fait craquer. Je trouve que cette séquence, elle est très très bonne. Il y a l'histoire d'amour aussi de...
Quoi, entre Stormbreaker et Mjolnir?
De Jen et Thor. Non, mais voilà, le fait que... Il montre aussi comment ça s'est passé, comment ça s'est un peu délité leur amour, mais que finalement ils tiennent toujours l'un à l'autre. Mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à être ensemble, quoi. Moi, j'ai trouvé ça très très beau. Non, ça te...
Non, parce que c'est expédié en 5 minutes. Même le...
C'est expédié en 5 minutes sur une musique de ABBA. C'est magnifique.
Non, parce que la séquence elle est interrompue
elle est
par les blagues à la con de Tahiti Douche en mode l'homme de pierre qui reste plus que sa tête. Et une autre blague de Tessa Thompson. Non, moi ça m'en a touché une sans faire bouger l'autre. Tout est expédié, tout est raccourci. Même comment et pourquoi Jen obtient les pouvoirs de Thor, c'est pas dans le film.
Bah si. Attends, t'exagères.
Non. Il y a des images de tournage où on voit Natalie Portman suspendue devant l'hôtel où il y a les débris de Mjolnir. On sait qu'il y a il y a d'autres séquences où elle est en mode Mighty Thor à New Asgard avant que Thor n'arrive, ce n'est pas présent dans le film. Valkyrie sait que Jen a les pouvoirs de Thor bien avant que Thor ne le sache et n'arrive à New Asgard.
Mais t'as pas besoin de le montrer, elle le dit. Quand Mighty Thor débarque, elle dit à Thor, Valkyrie dit à Thor, tu vas voir, tu l'as pas encore vu, mais on a un nouveau héros ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus comment elle le tourne, mais tu comprends très bien que ça fait un moment qu'elle est là avec...
Ça fait un moment, Mjolnir. On ne le montre pas. Tout est torché.
Mais
on
t'as voit pas Jen, besoin de le montrer,
on
ça.
On voit Jen.
Non,
mais si, pourquoi tu te fais chier à tourner des séquences si c'est pour pas importantes et qui font... Qui serait nickel. Moi ça m'intéresse de voir Jen Foster devenir Thor pour la première fois. C'est exactement de la même façon que ça m'intéressait et que j'ai aimé voir Thor récupérer son marteau la toute première fois dans le premier Thor.
Ne fais pas popper les
personnages comme ça. Hey, t'as vu poteau, on est là depuis 10 minutes, on n'a quasiment plus besoin de toi, bisous.
On sait que dans un film, des fois, il faut qu'il coupe des séquences pour des questions de rythme.
Après, je sais pas, j'ai pas
vu le montage avant-après, hein, peut-être que je dirais, non, j'ai aimé mieux le montage avant.
Pareil.
Peut-être, mais...
Ils deviennent quoi, les Asgardiens? Thor leur a filé ses pouvoirs, ils deviennent quoi après?
Alors ça...
Voilà, C'est tout le problème du film. Il leur a filé ses pouvoirs. Il a fait une blague sur le fait que les pouvoirs, il pourra les récupérer un temps. Et puis après, Wallow. On a le fils de... On a le fils d'Emdal qui apprend à se battre. Sif, elle est expédiée. Elle est, c'est pas qui a expédié, elle est torchée dans des séquences en mode c'est trop la blague, je suis en train de mourir, je me suis fait couper le bras. C'est festival de la connerie, ce film.
Mais si, c'est drôle, peut-être que ton bras ira au Valhalla.
D'où c'est drôle? C'est
mais si,
n'importe
c'est drôle.
Quoi. C'est de l'irrespect pour les, c'est de l'irrespect pour les persos, pour le public, pour les acteurs. C'est, ça fait des années qu'elle essaye de, que l'actrice qui joue Sif essaye de réintégrer le MCU. Ça fait des années que les fans demandent à ce qu'elle en vienne. Et le seul moment où il la font revenir, c'est dans ce film pourri.
Je suis d'accord avec toi que c'est un personnage qui a été sous-utilisé et qui a énormément de potentiel. Ça, c'est certain. Et y compris dans ce film, elle est sous-utilisée, clairement.
Oui, elle a deux séquences.
Oui, je suis d'accord.
Une où elle est à ça de mourir avec le bras tranché, et à la fin.
Mais l'autre qui est sous-utilisé, c'est peut-être Mighty Thor, hein, t'as raison, c'est vrai que...
Ah mais clairement, elle a, c'est pas du tout rendre grâce à Mighty Thor.
Ouais,
ouais. De ce qu'ils ont fait.
Après, moi, j'ai trouvé ça super intéressant, ce traitement de personnage. Enfin, le fait qu'elle soit malade et que, voilà, elle dise, bah, entre faire mon traitement dans une vie qui n'est plus une vie d'après moi et vivre à fond, j'ai choisi de vivre à fond. Enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui sont confrontés à ce genre de choix. Je pense qu'il faut suivre les traitements, je tiens à préciser. Mais je pense que voilà, il faut aussi réussir à vivre dans les moments entre deux chimios, par exemple, ou tout quoi. Je pense que c'est des moments où il faut que les gens ils continuent à vivre à fond, quoi. Et je pense que ce message-là, il est très très beau et il est très très bien traité.
Je suis pas sûr que le message il soit là. Je veux bien, je suis d'accord avec toi, qu'il soit bien traité, je suis pas sûr, encore une fois, c'est super, c'est passé en vitesse, c'est quand même relativement torché, et dans les comics, Jane, quand elle a son cancer, plus elle utilise les pouvoirs de... En fait, elle ne tient qu'avec les pouvoirs de Thor, dès qu'elle arrête de les utiliser... C'est même pas qu'elle est ramassée à la petite cuillère, c'est qu'elle meurt.
Bah, c'est un peu ça, quand même. C'est plutôt bien respecté. Non ? T'es pas convaincu ?
Bah non, puisque à plusieurs moments, on la voit en Mighty Thor, puis une fois le combat, on la voit en Jane Foster. Mais là, même en Jane, il y a très peu d'interactions avec Thor. Il y a très peu de... Elle a quasiment que des interactions avec Valkyrie quand elle est devenue Jane. Et la seule interaction qu'elle a en tant que Jane, bah, c'est quand elle meurt avec Thor.
Oui, mais justement, parce qu'elle essaye tellement de ne plus être Jane, d'être le plus transformée possible, parce que c'est sa façon de réussir à vivre et à tenir. Bah, elle le laisse pas, en fait, approcher cette fragilité qu'elle a. En fait, elle veut pas l'admettre. Elle veut pas l'admettre, elle veut surtout pas l'admettre auprès de Thor. Valkyrie, elle la laisse un peu toucher du doigt cette réalité, parce que c'est un peu sa confidente et qu'elle a besoin d'avoir quand même quelqu'un à qui se confier. Mais elle veut pas le montrer à Thor parce qu'elle l'aime de trop et qu'elle veut pas le faire souffrir. Et je pense que c'est vraiment... Enfin, je pense que ça, pour le coup, il y a plein de gens qui le vivent aussi. Moi, j'ai écouté le podcast France Info sur une journaliste qui raconte sa vie face au cancer. Ça s'appelle « Ma vie face au cancer ». Et à un moment donné, elle dit « Ça a été dur de vivre avec mon mari parce que lui, il me disait « Tu vas t'en sortir, tu vas t'en sortir » parce que lui, il avait besoin de l'entendre, en fait, et de garder de l'espoir. Sauf que elle savait qu'elle était condamnée et elle n'arrivait plus à l'entendre non plus. Et je pense que c'est cette relation-là qui est remise dans le film.
T'as sans doute raison. Mais je trouve quand même que c'est mal fait. Comme tu le sais, j'ai aussi plusieurs membres de ma famille qui sont morts suite à des cancers. Donc, moi, personnellement, tenez bon, serrez les dents, combattez, ça a tendance à me donner envie de taper très fort sur la personne qui le dit avec le truc le plus lourd que j'ai.
Ah ben voilà, c'est parce qu'en fait, ça a l'effet inverse entre toi et moi.
C'est ça.
C'est que moi, j'ai vu l'aspect un peu, je sais pas, positif, combatif, montrer aussi que c'est une réalité et que ben ça reste quand même... Enfin, je sais pas comment dire, mais que Jen, c'est pas parce qu'elle est malade qu'elle est pas entière dans son âme, quoi.
Il y a sans doute ça. J'ai plus vu le côté négatif enfin, tu le sais en partie. C'est les discours. C'est pour ça que très souvent dans les films, quand ils utilisent l'astuce du cancer sur un personnage, et puis tu le vois, allez, pas toi, machin, ça plus me donne envie de foutre le feu à la salle qu'autre chose.
Ouais, non, mais je peux comprendre que selon nos ressentis, nos vécus, on n'y voit pas les mêmes messages en fait, complètement. Après, je trouve que c'est plus intéressant, tu vois, ça, par exemple, que dans Les Gardiens de la Galaxie, où sa mère, elle meurt, et puis finalement, c'était son père qui l'avait tué, tu vois. Finalement, t'annules un peu, c'est un peu comme si... le cancer, ça existe pas.
C'est pas ce qui est dit. Et c'est pas maladie, c'est pas ce qui est dit. Elle est morte d'un cancer, mais ce qui l'a déclenché, c'est son père. C'est ça qui fait vriller. C'est ça qui fait vriller Peter. D'où sa réaction. C'est attends, comment ça t'as déclenché Moi, c'est une réaction, je comprends très bien. C'est attends, comment ça t'as déclenché T'as fait exprès que maman se chope un cancer. Attends, redis-moi ça là, je crois que j'ai mal compris. Donc c'est.
Ce que je voulais dire, c'est que du coup. C'est un peu comme si c'était pas une vraie maladie, c'était une maladie extraterrestre, quoi.
Non, je le ressens pas. Je le ressens pas comme ça. Je suis pas d'accord avec toi sur ton analyse du cancer de la mère de Peter.
Après, il y a quand même une séquence qui m'a fait un peu halluciner, c'est quand elle envoie ses cellules à Selvig. Alors, moi, je peux vous dire que je suis physicienne. Ne m'envoyez pas vos cellules pour vous, où je vous dise si vous êtes en bonne santé ou pas. C'est niet, en fait. Physicien et biologiste.
C'est pas les mêmes métiers.
Et en plus, biologiste médical et tout, spécialisé dans le cancer, c'est juste pas du tout la même chose, quoi. Enfin.
Ouais, c'est, mais là aussi, c'est des. C'est des raccourcis, parce que clairement, les scénaristes n'ont aucune connaissance là-dedans. Et se disent, donc il doit savoir faire.
Non, mais elle aussi, elle a un doctorat Jen. Donc en fait, elle est tout aussi compétente que Selvig, en fait. Ils ont le même diplôme, les deux.
C'est la logique du scénariste. Tu comprends, elle veut être sûre. Elle s'est analysée elle-même ses cellules de sang. Donc elle veut un deuxième avis. Donc, elle l'envoie à un astronome du coin qui travaille pour le Shield.
Bah oui, c'est vrai. Entre deux études sur des pierres d'infinité, il a le temps.
Tu vois, mais même là, je te rappelle que dans les Avengers 2, ils réparent littéralement le corps de Hawkeye qui s'est pris une blessure grave. Il le répare sur une machine high-tech. Et moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Dans les Galaxies 3, t'as Rocket qui se fait soigner en dodo avec une espèce de pack médical à tout faire de tous les côtés. On est, ils ont de la magie, ils ont de la technologie de fou, de turfu, et bizarrement, pour le cancer, il n'y a rien. C'est ça qui...
Mais moi, je trouve ça intéressant, au contraire. Je pense que c'est bien de montrer que ben, on n'est pas dans un monde où, où tous les problèmes sont résolus et que, hop, c'est bon, de toute façon, il n'y a aucun problème. Tu vois, par exemple, dans le 2, tu pouvais dire... ça ressemble un peu aussi à une métaphore du cancer, en fait, les ténèbres. Et en fait, en 2-2, c'est bon. T'es passé dans la machine Asgardienne, c'est bon. Allez, hop, au suivant. Ah, c'est un peu expédié, quoi. Bon, après, moi, j'aime pas beaucoup Tordou. Désolé.
Oh, moi, je l'aime bien. Je le trouve pas si mauvais que ça. Il y a deux, trois trucs cool. Mais... Et là, on est censé défoncer Love and Thunder, là.
Ouais, on défoncera le 2 un autre jour. Non, on est censé le défendre, parce que personne ne l'aime, et que moi,
non,
je l'aime
mais
bien.
Il est tout pourri comme film.
Après, il y a la séquence avec les gardiens, dont on n'a pas parlé.
À chier. C'est à chier, parce que on avait laissé gros Thor... à la fin de Endgame.
Ah non, mais l'appelle pas comme ça, s'il te plaît, c'est affreux.
C'est l'amateur de bière spatiale qui arrive, il nous fait pareil, en 2-2, il redevient athlétique, mais même là, sa relation avec les gardiens, c'est du n'importe quoi. Et puis surtout, il est con comme un manche à balai. Moi, c'est ça qui m'énerve le plus dans ce film-là. Thor,
attends,
il est con comme un manche à balai.
Ah.
C'est il avait pris de la gravité quand même dans Infinity War et Endgame, et là, il est con comme un manche à balai. C'est vraiment à croire que Taiki Waititi a écrit son scénar. Il y a 12 ans, sans savoir ce qui allait se passer avant, et qui s'est dit, allez, je vais faire une pure comédie où tous mes personnages seront des crétins.
Après, c'est un peu le problème des personnages comme ça qui ont tendance à évoluer dans le film. C'est que souvent, en fait, dans le film suivant, tu repars du début un peu. Donc Thor, c'est un peu le foufou. Et voilà, et dans le premier, il apprend à avoir des responsabilités. Dans le deuxième, il apprend à avoir des responsabilités. Dans le troisième, il apprend à avoir des responsabilités. Et dans le quatrième, il apprend à avoir des responsabilités.
Ouais, mais c'était. Il y avait quand même une évolution. Ouais, mais si tu regardes le premier Thor, si tu fais tous les films où apparaît Thor, entre le premier et Endgame, c'est sûrement l'un des personnages qui évolue le plus. Finalement, parce que comme tu dis, il est un peu con-con, il est un peu foufou. À la fin d'Infinity War, et surtout dans Endgame, il s'en est pris plein la tronche. Il s'en est pris plein la tronche, et c'est, oui. Et c'est pas un oui, dieu oui. rigolo à la fin d'Endgame. Et c'est pas du tout un dieu rigolo. Et là, on commence Love and Thunder, le mec, il nous fait une parodie du personnage de Patrick Swayze dans Point Break. Il fait... c'est du foutage de gueule total. Et puis moi je suis pas d'accord. Encore une fois, c'est des films qui se suivent. C'est des films où il y a un grand monsieur à casquette là qui est censé tout chapeauter, qui a viré des scénaristes et des réalisateurs parce que ça allait pas dans son sens de ce qu'il voulait. Et là on a le Thor 4 qui se torche littéralement avec le personnage avec toute l'évolution. De Thor jusqu'à Endgame, on a l'impression qu'il part directement en fait, j'ai vraiment l'impression que Love and Thunder, c'est des scènes coupées du début de Ragnarok. Parce que c'est le festival de la connerie, c'est un Thor un peu con-con. Et c'est pour ça que j'en veux à Taiki Waititi. Il a fait son truc dans son coin. On l'a laissé faire. Il s'est moqué des effets spéciaux. Le truc que je trouve hallucinant, c'est au moment où les gens d'ILM, où les gens qui bosse pour les effets spéciaux de Marvel, ouais, commençait à sortir les pancartes et commençait à dire que ils en pouvaient plus, ils étaient rincés des délais foireux, des modifications totales. L'autre connard sort la semaine où son film sort une vidéo YouTube, TikTok, je sais plus trop quoi, où il est avec Tessa Thompson et il se moque des effets spéciaux pas finis de son film.
Ah bon?
Oui, c'est aussi pour ça que ce film sort par les yeux. Il est en mode rien à foutre.
Ouais, c'est pas très correct.
Pour moi, le mec est vraiment passé en mode rien à foutre. Je fais ce film-là parce que j'y suis obligé et parce que comme ça, Disney, ils vont me donner, ou la Fox va me donner du pognon pour faire, parce que j'aurais été un bon soldat, j'aurais fait, et je vais aller faire mes films. Des rares choses que j'ai vues en tant qu'acteur, en plus de Taiki Waititi, c'est un connard de 50 ans qui se prend encore pour un jeune de 15 ans à faire des blagues de merde. Il ne prend rien au sérieux, ni ce film, ni ses personnages, ni leur histoire. Et moi, ça m'énerve parce que il y avait moyen de faire un truc très bien, et il s'est torché le cul avec Thor.
Ben moi je suis pas complètement d'accord. Je pense que aussi on a tort justement, comme tu disais, dans la fin de Endgame, il est très sérieux, mais aussi parce qu'il est en dépression. Enfin c'est pas sa nature du tout. C'est pas sa nature du tout. Et les gens ils ont.
Ah mais je dis pas le problème. Donc, c'est que pour moi Thor est un abruti, mais c'est pas un con. D'accord, je sais pas si tu vois les différences.
Attends, non, je vois pas le. C'est subtil, Sylvain, c'est très subtil.
Je sais pas, je vais peut-être pas réussir à le dire, mais Thor, il se comporte pas comme un redneck américain dans le premier. C'est un connard arrogant, d'accord, qui doit se prendre des tartes par papa et par le petit frère qui essaye de le planter en douce, pour évoluer. À aucun moment dans Thor 1, dans Thor 2, ou dans les premiers, ou dans les Avengers, Thor est un confini qui ne sait pas différencier sa droite de sa gauche. Or, dans Ragnarok, ça avait commencé dans Ragnarok et dans Love and Thunder, Thor, c'est un crétin. C'est un redneck américain qui est pas capable de pisser son grand foot partout, qui ne connaît rien à rien, qui fait des blagues pas drôles et donc non, il c'est.
Je vois pas trop en quoi tu trouves que il a l'air plus débile que sur les autres. Je suis désolé, hein. Je vais t'obliger à développer ton propos.
Toute la partie avec les gardiens et les discours à la mort moelle qu'il fait, les séquences où le mec il est avec où le mec il appelle Mjolnir comme ça tout cassé, et limite il a la petite larmichette quand Mjolnir ne vient pas.
Oui, d'accord, je vois de quoi tu parles. Oui, après je sais pas, moi ça me gêne
toi,
pas.
Toi, t'étais ébahi par les muscles de. C'est pour ça que t'as rien vu.
Non, pas du tout. Non, je trouve que c'est pas. Enfin, tu vois, autant les chèvres, moi j'adore pas spécialement. Autant l'humour avec du Mjolnir, moi je trouve que c'est drôle. Enfin voilà, c'est pas trop lourd. C'est suffisamment. Voilà, ça va. C'est un humour sur lequel moi ça me fait rigoler quand je vois le film. Après, je peux comprendre que toi, c'est pas ton style d'humour. Hein. L'humour, c'est très, très personnel.
Bah, oui, il y a ça, mais t'as l'impression qu'à un moment, ils se sont dit « Ce serait cool si on fait un ménage à trois entre Thor, Mjolnir et Stormbreaker. » T'as un moment, s'il vous plaît. Thor fait une déclaration à Stormbreaker, d'amour à Stormbreaker. On est où, là? Qu'est-ce que c'est quoi?
Mais c'est son arme. Je sais pas comment te dire.
On était plusieurs. On avait vu en projection presse ce film-là. on est plusieurs, on avait halluciné. On comprenait pas ce que c'était, d'où ça venait ce truc-là. C'est.
Mjolnir, il est jaloux.
Mjolnir, il est jaloux de. Mais Mjolnir, il est jaloux de. Mais d'où les armes deviennent jalouses? D'où elles ont leur personnalité propre au bout d'un moment?
Ben pourquoi pas? Je sais pas.
Non, mais ça.
C'est des armes magiques.
C'est pas la magie, ça doit pas être une excuse pour faire tout et n'importe quoi. Faut qu'il y ait une certaine logique.
Mais Mjolnir, il choisit ses porteurs.
Mais justement. Si Mjolnir choisit ses porteurs, pourquoi Mjolnir serait. Et qui, en plus, après, s'être choisi un nouveau porteur dans Angel, pourquoi il serait jaloux de la relation entre Stormbreaker et Thor? C'est du n'importe quoi.
Non, pardon, c'est l'inverse. C'est Thor voudrait reconquérir Mjolnir, et donc Stormbreaker est jaloux. Jalouse, je sais pas trop.
Moi, c'est du. Je sais pas comment faut genre les armes. Je sais pas si ça te fait marrer, mais va consulter, quoi.
Bah, ok, j'y songerai. J'y songerai si loin. Ouais, bon, pour revenir justement à ce qu'on disait, les gardiens, clairement, on a le sentiment que. Voilà, ils avaient été un peu apeurés à la fin. Ouais,
et ils savaient pas quoi en faire.
À la fin du film précédent, et que ça arrangeait personne, ni. Les gardiens ni Thor, donc voilà. Je suis pas spécialement choquée non plus, hein, c'est quand même le principe des BD solo et des BD où il y a plusieurs héros, donc c'est pas choquant qu'on s'en débarrasse comme ça assez rapidement, même si on aurait peut-être pu faire ça un peu plus finement.
Ils auraient dû faire ça mieux, plus intelligemment. Pas un groupe de neuneux et d'autres neuneux en chef, et puis ils font une mutinerie, ils se barrent, tant mieux, l'autre est trop bête pour comprendre, et donc il suffit de l'embrouiller 2 secondes. Ouais, c'est bon, vous pouvez y aller, j'ai autre chose à faire.
Est-ce que tu avais autre chose que tu voulais dire?
Ouais, les effets spéciaux. Ouais, mais faut en mettre une couche quand même. Ouais, ok.
D'accord, vas-y.
C'est idéal au possible. Tu vois, il y a certaines séquences, les responsables des effets spéciaux se disaient, cette séquence-là, c'est pendant la bataille à New Asgard, là. Ils disaient, ils ont changé 3-4 fois les décors en numérique. C'est pour ça que c'est mal détouré, que les casques de Mighty Thor et de Thor sont hideux. C'est pas des casques réels. À aucun moment, ils portent de vrais casques. Donc, c'est des casques rajoutés en numérique. Tout est mal détouré. Il y a des décors qui ont été changés en numérique, encore une fois, au dernier moment. Des plans qui ont été remontés dans des ordres différents, tout est. Et certains disaient, je me rappelle même pas avoir tourné ce truc-là. Et, dans un film à plusieurs centaines de millions, je n'arrive pas à comprendre.
Ouais, mais c'est ce qu'on disait un peu dans nos émissions précédentes, c'est. Et là, récemment, en fait, ils ont tiré sur la corde parce que les mecs des effets spéciaux n'étaient pas syndiqués et que donc on pouvait se permettre de les faire travailler 50 heures par semaine au bas mot. Et donc, tout ce qui n'était pas réglé au millimètre dans le tournage, c'était en mode c'est pas grave, les effets spéciaux régleront ça au dernier moment en faisant des heures sup, quoi. Sauf qu'il y a un moment, les heures sup, tu peux pas les faire. De manière illimitée, donc il y a un moment, les effets spéciaux qui en pâtissent, quoi, parce que plutôt que d'avoir un effet spécial joli, on refait 3 fois des scènes différentes, on fait des choses qu'on aurait pu faire en réel, on les fait en effet spécial. Enfin voilà, New Asgard, typiquement, tu prends n'importe quelle ville en Norvège, ça passe, quoi, enfin, t'as pas besoin de faire un
effet spécial. Et là, ils ont fait un simili Disneyland. Et en plus, toutes les séquences de nuit ont été faites clairement sur fond vert. Donc tout a été modifié. Il y a des faux raccords dans tous les coins. Il y a des des trucs, tu vois que les acteurs sont pas réellement l'un en face de l'autre, quoi.
Ah, j'irai voir les faux raccords, du coup. Tu me rends curieux.
Surtout pendant la séquence de New Asgard, tu vois que c'est... t'as des problèmes de champ contre champ, t'as des problèmes de position des personnages, mais c'est à tel point que s'ils n'ont pas modifié le fait que ce soit de nuit, que la séquence se passe de nuit, pour essayer de cacher encore plus la misère.
Ah oui, ben ça, c'est un gros classique.
Non, c'est plusieurs centaines de millions de budget, et ils ne sont pas foutus de faire des casques réels pour Natalie Portman.
Ça, c'est dommage, quand même.
Non, tu vois, c'est l'attitude de Waikiki, ses problèmes d'effets spéciaux. Il est arrivé avant ou après Ant-Man 3, lui ?
Je pense qu'il est sorti avant, ouais.
C'est le début, pas de la fin, mais c'est le début de la séquence très dure pour Disney, à tel point que Bobby, on sait maintenant, il y a des projets qui ont été annoncés, Marvel, films ou séries qui ont été annulés manu militari. Et je pense qu'on va revenir à un niveau beaucoup plus... on va revenir à deux films par an, deux films Marvel par an. Les séries, je pense qu'elles vont s'arrêter d'elles-mêmes. Il n'y en aura pas d'autres lancées en prod. Et je pense qu'au niveau histoire à la con, ils vont serrer la vis.
C'est bien, enfin, je veux dire, si cette séquence de flop leur a appris il valait mieux prendre son temps sur un film et le sortir correctement plutôt que d'en sortir 10 et de flopper, franchement, moi, je dis, on aura gagné, quoi. Parce que aujourd'hui, en effet, je pense que... Les films, ils sont pas aboutis. Bah, c'est ce qu'on disait sur The Marvels. The Marvels, il y a des choses très très bien, mais il y a d'autres choses qui manquent de profondeur. Et clairement, je pense que s'ils avaient eu un tout petit peu plus de temps pour affiner le scénario, affiner le montage.
Ouais, mais surtout qu'il a été décalé, surtout que sa sortie a été décalée, hein, The Marvel. Donc c'est.
Ouais.
Hein, je pense qu'il faut j'espère que ça leur a servi de leçon.
Ah bah je pense, oui. Jusqu'à la prochaine fois. Je me fais pas d'illusions. Ils se sont déjà plantés comme ça sur Star Wars en sortant à 6 mois d'intervalle Solo et les derniers Jedi. Ça leur a pas servi de leçon pour essayer de pas se planter de la même manière sur Marvel. Donc.
Mais oui, mais c'est ça, c'est malheureux d'en arriver par là. C'est censé être des gens intelligents qui savent faire des films, qui savent produire des histoires, qui savent faire du divertissement. Et arriver à produire ça, suivi de Ant-Man 3, suivi de séries dont tout le monde se fout, et de prévoir la sortie de 12 films par an, t'inquiète, ça va passer crème. Bah non, ça passera pas crème en fait.
Ah, les mecs. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en effet, il faut qu'ils se recentrent et qu'ils prennent leur temps. Alors, moi, j'aime vraiment bien ce film parce que j'aime bien la façon dont ils abordent et la parentalité et la maladie, en fait. Je trouve que ça donne des interactions entre les personnages qui sont vraiment très intéressantes. Mais en effet, je pense qu'on aurait pu gagner encore, avec les dieux, je pense qu'on aurait pu les développer plus et mieux que ça. Là-dessus, je pense que je suis complètement d'accord avec toi.
Ben moi non, j'apprécie. C'est vraiment un film qui m'a mis autant, tu vois. Ant-Man 3, sorti de là, oui, bon, c'est mauvais. Mais celui-là m'a vraiment mis en colère. Parce que pour moi, c'est la quintessence du foutage de gueule. Et alors que j'aime beaucoup Thor, tu sais combien j'apprécie Natalie Portman. Mais là, c'était vraiment... ce film-là, c'est vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder l'eau du bain avec le bébé. Ça m'a vraiment... je suis sorti de là, j'étais vraiment écœuré. Écœuré et énervé. Parce que pour moi, c'est un gâchis à 200 millions... Et j'ai beaucoup de mal à lui trouver la moindre qualité.
Ah, tu vois, moi, c'est pas le cas. Après, je me pose quand même la question de qu'est-ce qu'ils vont en faire de cette Jane Foster là.
Rien.
Je sais pas. Ils pensent rien. Je sais pas.
Ils sont avec Heimdall au Valhalla. Ils peuvent trouver une astuce pour les récupérer. Mais ça servira à quoi? Parce que ça voudrait dire qu'en fait, dans le MCU, la mort n'existe pas. Donc, dans ces cas-là, pourquoi on ne va pas ressusciter ou chercher Tony Stark?
Attends, c'est pas parce que tu peux aller dans le Valhalla que tu peux aller ailleurs.
Pourquoi pas? T'as plusieurs sorciers suprêmes maintenant sur la planète. T'as un royaume des morts. Et puis, on a oublié que Hera, c'était aussi la déesse des morts. Hein. Donc, il y a un autre royaume des morts, non plus bazar.
Oui.
Il y a suffisamment de royaumes des morts et de magiciens ultra puissants pour aller chercher. Et on a même maintenant le multivers. Donc, il y a aucune raison de ne pas aller chercher, récupérer Tony Stark ou Steve Rogers au mieux de leur forme. Donc.
Ouais, je suis pas trop d'accord avec toi. Mais après, oui, ils ont le voyage dans le temps, ils ont plein de trucs. Hein. Mais je pense qu'il faut pas reprendre Tony Stark. Parce que sinon, t'annules complètement l'émotion que t'as. Hein. Après, je suis d'accord avec toi. Hein, sur Jen, c'est pareil. Mais Jen, c'est pas pareil. Dans le sens où directement, tu l'as vu revenir. Donc, c'est pas tout à fait la même chose.
Ouais, mais ce serait la même. Ça veut dire que la mort n'a aucune conséquence. C'est un peu le problème qu'il y a dans beaucoup de films Marvel ou même de super-héros. Depuis, surtout, qu'on a fait le multivers et la mort n'a plus de conséquences. Ah bah il meurt, bah c'est pas grave, on va aller le rechercher, on va repartir 10 minutes en arrière. Pourquoi se soucier des personnages si tu sais que de toute façon dans le prochain film ils vont le ressusciter?
Ah bah je suis d'accord avec toi, enfin c'est pas les seuls hein, depuis sur le Seigneur des Anneaux déjà tu peux te dire Gandalf il meurt parce... ah bah non tout va bien, voilà. C'est qu'un exemple. Je pense que tu peux en retrouver déjà jusque dans l'Antiquité.
Passons ça, on te dit que, au final, pourquoi, en restant dans le Seigneur des Anneaux, pourquoi Sauron il ressusciterait pas, finalement?
Ah bah, si. Bah, et c'est ce qu'il a fait.
Et après la destruction de l'anneau unique dans le volcan, on te dit allez, c'est bon, c'est fini. Apuceron, pourquoi?
Oui, si, parce que justement, normalement, dans le Seigneur des Anneaux, il a survécu par le pouvoir de l'anneau. Donc après, il est détruit parce que le pouvoir de l'anneau a été détruit. C'est comme dans Harry Potter.
Oui, mais c'est un nécromancien, me dit pas qu'il a trouvé une seule façon de rester en vie au-delà de la mort. Donc si j'ai envie de faire revenir Sauron et qu'il aille poutrer, qu'il aille pisser sur la tombe de Gandalf, je le fais. Non.
Ben, appelle Amazon Prime, je suis sûre qu'ils seraient très heureux de ton scénario. Et je pense qu'ils vont peut-être le faire même. Tu vois? Parce que vu qu'ils galèrent un peu, il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est pareil dans l'épisode 9. Hein, c'est pas pourquoi ils viennent nous chercher Palpatine. C'est pas comme si il n'y avait pas des personnages intéressants à développer. Autre que ressortir toujours les vieilles cartes, au sens propre.
Non, mais là, c'est à cause d'Omega qu'il a...
Arrête, me spoil pas.
Donc moi, la solution que j'ai, c'est on tue Omega, on brûle son corps, puis c'est fini. Il n'y aura plus d'épisode 9.
Ah bah, tu veux faire un multiverse à ta sauce de Star Wars? Tu refais le scénario,
la trilogie.
Je sais, tiens, très bien, ok, ouais, je le prends. Tu m'appelleras quand tu auras fini.
Pas de soucis.
On n'a pas parlé de la musique, est bien aussi.
Je m'en rappelle plus. Il doit y avoir de la musique pop à l'intérieur, mais je sais plus laquelle.
Tu la réécouteras. Bah c'est le thème de Thor et tout, mais ça, c'est réorchestré, c'est sympa, moi j'aime bien. Voilà, donc devoir... réécouter la BO.
Sauf les parties où il y a Abba.
Bah pourquoi?
T'as dit qu'il y avait du Abba à un moment. Mais j'aime pas Abba. Bah non.
Quoi? Mais je te réinvite plus jamais. C'est pas possible. Jamais de la vie. En plus, c'est ma chanson préférée d'ABBA. Like a simple, bon, bref. Je vais voir ma mamie pour la troisième fois. J'adore, j'adore. Donc c'est trop
non,
bien.
Non, c'est trop nul.
Bon, écoute, je crois que j'arriverai pas à te convaincre, mais je veux bien l'avis des auditeurs. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui, comme moi, ont aimé ce film? Il y a déjà des gens qui m'ont dit j'ai bien
ouais,
aimé.
Ouais, mais s'ils ont aussi pas de goût que toi, ça m'étonne pas.
C'est Loïc et Gareth.
Oui, c'est bien ce que je dis.
Attends, c'est des gens bien. Je leur fais des
non,
bisous, d'ailleurs.
Pas envie.
soutenez-moi.
Non, ouais. Soutenez-moi. Ah.
Vive Mighty Thor. Voilà. Et en effet, si on peut avoir une version longue avec les séquences dont tu parlais, je prends aussi.
Et puis il y a un film avec des effets spéciaux terminés aussi, puis avec un film avec des vrais scénarios et des vrais personnages aussi, ce serait pas mal. Puis avec un vrai réalisateur aussi, pas quelqu'un qui s'en tape.
Bon, ce sera pour le prochain film peut-être.
On fait la Snyder Cut ?
Oui, d'accord. Non, mais on avait dit qu'on ferait un cycle d'ici. Mm. En effet. Je ne t'ai
ah
pas oublié.
Ouais, moi non plus, je ne vous ai pas oublié.
Ça marche. Ben, on va essayer d'enregistrer aussi prochainement Dune 2. Voilà, avec Iris. Donc, à bientôt.
À bientôt.
Salut à tous.